Kiosque Magazine.
Nous sommes le vendredi 14 novembre. Bienvenue à Kiosque Magazine sous le thème des loisirs et de la culture. Ce matin, je suis en compagnie de Jennifer Vignery. Bonjour Jennifer.
Bonjour à tous. Salut Charles.
De quoi tu vas nous parler aujourd'hui, Jennifer?
Alors aujourd'hui, je vais vous parler du film documentaire Le Nez de Kim Nguyen qui a inauguré la 17e édition des Rencontres internationales du documentaire de Montréal. J'aborderai également le premier spectacle de Valérie Blé, qui est passé le 11 et 12 novembre sur la scène du Monumental National, et enfin de Stéphane Rousseau et de son récent spectacle Stéphane Rousseau brise la glace.
Bien, parfait. Et nous autres, on brise la glace avec un hommage à Jacques Brel sur CD. Ça a été un spectacle qui a été tourné dès 2012 et ça va être immortalisé sur CD. Il sera question aussi de cinq autres suggestions des rencontres internationales du documentaire de Montréal. Je ne suis jamais en retard, c'est une pièce de théâtre dont je vais vous parler. L'éveil à Québec en danse. Je vous parle aussi de la nouvelle exposition au Musée des Beaux-Arts de Sherbrooke et la route celtique. Est-ce que vous connaissez? On vous y emmène aujourd'hui. Bonne émission. Jacques Brel. Avec la Belgique comme invité d'honneur à Montréal en 2012, il était bien difficile de ne pas monter un hommage à Jacques Brel, le plus grand nom de la chanson belge. Où était-ce la chanson française? En tout cas, c'était Brel. C'est Daniel Lemay qui écrit ces mots dans la presse sous le titre « L'hommage à Brel poursuit sa vie sur disque ». C'est paru le 10 novembre. L'œuvre de Jacques Brel... ça ne fait pas de doute, ça résonne encore dans les cœurs, même chez ceux qui ne l'ont pas connu vivant. L'accueil est tel que les Francofolies mettent « Ne me quitte pas » à leur programmation en 2013, l'année marquant le 35e anniversaire de la mort de Brel. 5 jours avant, le spectacle avait été présenté au Festival La Chanson de Tadoussac. À la demande générale « Ne me quitte pas », 10 interprètes à rassembler, pas simple, est finalement parti en tournée au Québec l'hiver dernier. Rien, on le voit, n'a marché comme prévu et voilà que 3 ans et une vingtaine de spectacles plus tard sort « Ne me quitte pas », un hommage à Jacques Brel, sobrement rendu par 11 chanteurs et chanteuses d'ici qu'accompagne de magnifique façon la pianiste, Benoît Sarrazin, qui a réalisé l'album. L'idée première, répète Luc de la Rochelière, était de garder les choses simples, de ne pas risquer de tomber à côté de l'œuvre. Au-delà des textes et des mélodies, Brel était un grand interprète et cette force pousse les interprètes d'aujourd'hui dans leur dernier retranchement, les oblige à se surpasser pour occuper l'espace sur scène comme sur disque. Les premiers succès. Catherine Major a remplacé Bia pour 5 représentations de la première tournée, mais la voici dans une magnifique interprétation de « Quand on n'a que l'amour », le premier succès de Brel, écrit en 1856, où s'impose ce crescendo dont il fera sa signature dramatique. Catherine Major est allée à l'essentiel. Pas d'écoute d'autres relectures. J'ai toujours évité cette approche qui, pour moi, ressemble à une étude de marché. Il faut s'en remettre à son intuition pour arriver à respecter l'œuvre tout en restant soi-même. De la Rochelière, pour finir, nous parlera de son chouchou, celle qu'il a lui-même intégrée au spectacle, Danielle Odera, la sœur de Clairette, que Brel ne manquait jamais de visiter à sa boîte de la rue de la Montagne. Elle est la seule artiste de la distribution à avoir connu personnellement le chanteur. Avec Danielle Odera, on a sur la scène toute une âme et tout l'art de Jacques Brel. Les gens lui font une ovation chaque soir, même en plein milieu du spectacle. Ne me quitte pas reprend la route après les fêtes avant de revenir pour la grande finale de Montréal en lumière le 25 février et le CD est dans vos bacs. On écoute Jacques Brel.
Au premier temps de la valse, toute seule, tu souris déjà. Au premier temps de la valse, je suis seul, mais je t'aperçois. Et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi. Et Paris qui bat la mesure, me murmure, murmure tout bas. Une valse à trois temps qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours du côté de l'amour. Comme c'est charmant, une valse à quatre temps, c'est beaucoup moins dansant, c'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant qu'une valse à trois temps, une valse à quatre temps, une valse à vingt ans. C'est beaucoup plus troublant, c'est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant qu'une valse à trois temps, une valse à vingt ans, une valse à cent ans, une valse à cent ans. Une valse à cent ans, chaque carrefour dans Paris que l'amour rafraîchit au printemps. Une valse à mille temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps de patienter vingt ans pour que tu aies vingt ans et pour que j'aie vingt ans. Une valse à mille temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps, frosse aux amants 333 fois le temps de bâtir un roman. Au deuxième temps de la valse, on est deux, tu es dans mes bras. En deuxième temps de la valse, nous comptons tous les deux, une, deux, trois. Et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi. Et Paris qui bat la mesure, nous fredonne, fredonne déjà. Une valse à trois temps, qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours du côté de l'amour. Comme t'es charmant, une valse à quatre temps, c'est beaucoup moins dansant, c'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant qu'une valse à trois temps, une valse à quatre temps, une valse à vingt ans. C'est beaucoup plus troublant, c'est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant qu'une valse à trois temps, une valse à vingt ans, une valse à cent ans, une valse à cent ans, une valse à cent ans. Chaque carrefour dans Paris que l'amour rafraîchit au printemps. Une valse à mille temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps de patienter vingt ans pour que tu aies vingt ans et pour que j'aie vingt ans. Une valse à mille temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps, frosse nos amants 333 fois le temps de bâtir un roman. Au troisième temps de la valse, nous valsons enfin tous les trois. Au troisième temps de la valse, il y a toi, il y a l'amour et à moi. Et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi. Et Paris qui bat la mesure, laisse enfin éclater sa joie. Une valse à trois temps, qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours du côté de l'amour. Comme c'est charmant, une valse à quatre temps, c'est beaucoup moins dansant, c'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant qu'une valse à trois temps, une valse à quatre temps, une valse à vingt ans. C'est beaucoup plus troublant, c'est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant qu'une valse à trois temps, une valse à vingt ans, une valse à cent ans, une valse à cent ans, une valse à cent ans. À chaque carrefour dans Paris que l'amour rafraîchit au printemps, une valse à mille temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps de patienter vingt ans pour que tu aies vingt ans et pour que j'aie vingt ans. Une valse à mille temps. Une valse à mille temps, une valse à mille temps, presque dans un mois, 333 fois le temps de bâtir un roman. La 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 la.
Et c'était Jacques Brel avec la valse à mille temps.
Waouh, cette chanson-là me donne des frissons à chaque fois, c'est incroyable.
Elle nous embarque vraiment.
Oui.
Alors, je vais vous parler du film documentaire Le Nez, donc un article qui est paru dans le journal du Métro le 12 novembre et qui a été écrit par Natalia Wysoka. Dans Le Nez, Kim Nae-young explore au son d'opéra, de piano doux et de sonorités raffinées, l'univers des odeurs ouvrant des boîtes de safran en même temps que celles des souvenirs. « Je suis un gamin dans l'âme, un vrai petit cul de 5 ans, et le bonheur pour moi en cinéma, c'est qu'on m'encourage à le rester le plus longtemps possible. Rester émerveillé tout le temps, c'est un peu ma job », dit Kim Nae-young dans un grand sourire. Cet émerveillement, il le traduit dans Le Nez, son nouveau film, qui ouvre les rencontres internationales du documentaire de Montréal. Produit par Lucie Tremblay, le long-métrage explore le lien cognitif entre l'odorat, l'émotion, les souvenirs, la sexualité et le désir. Au fil de cette épopée, Kim Nguyen rencontre, et nous avec lui, des personnages aussi intéressants que colorés. Comme Guido Lansen, le créateur de Vulva Original, parfum qui se passe d'explication. Ou Molly Birnbaum, une journaliste qui a perdu son odorat après un accident. Et puis Franco Canta, un chasseur et revendeur de truffes qui, tel un gangster, surveille ses arrières et traîne son fusil lorsqu'il fait ses livraisons. Alors qu'il s'entretient avec cette bande de joyeux protagonistes, Nguyen s'amuse. « Je n'avais pas envie d'être trop omniprésent, mais j'ai décidé de laisser ça aller et de faire partie du documentaire », observe-t-il. Dans ce film, celui qui nous a donné Rebelle et Truffe pointe aussi le nez vers les astres. Hormis les plans d'anis étoilés, clin d'œil du réal à ses racines et à la soupe vietnamienne, on entend le cuisinier français Olivier Rollinger raconter que lorsqu'il était petit, il croyait que chaque étoile avait son odeur. L'astronaute Guy Affil, quant à lui, confie à la caméra que la plus grande question qu'on se pose tous, c'est qu'est-ce que ça sent dans l'espace ? Au sujet de ces parallèles, Nguyen souligne que c'est réellement au montage qu'ils se sont faits. C'est un des trucs que j'aime du documentaire. On peut sans attente préconçue aller capter des éléments. Il y a un bonheur quand les gens vous disent « j'aimerais vous raconter quelque chose » et que tu pars avec la caméra et que tout ce que tu reçois n'est pas ce à quoi tu t'attendais. Notons toutefois que si le ton global du film est léger, et c'est voulu, il y a également un segment plus sombre qui évoque le 11 septembre. Alors qu'une dame raconte l'odeur de remous chimiques qui accompagnait la destruction des tours et les feux. Kim Nguyen fait défiler les photos de la tragédie. Étrange phénomène. C'est davantage la motion de l'odeur en question que les photos qui risquent de venir chercher le spectateur, le troubler, de le remuer. Serait-ce qu'en cette époque de déferlante d'images, c'est par l'odorat qu'on peut encore atteindre les âmes rendues blindées contre tout ou presque, visiblement. Après, une chose qui est, je dirais, triste, c'est que les commerces se sont rendus compte que certaines odeurs stimulent la consommation. Ce n'est pas dans le film car ce serait devenu un autre documentaire. Et je voulais que ce film soit vraiment un truc de plaisir. Donc on pourra revoir ce film documentaire, il y aura une deuxième représentation demain le 15 novembre à 18h30 au cinéma du Parc.
Génial. Le film dont tu nous parlais, Jennifer, est dans le cadre des rencontres internationales du documentaire de Montréal. Et je vais vous parler de 5 autres suggestions de films dans ce festival. Vous verrez, ce festival, ça regroupe 141 films en provenance de 41 pays, rien de moins, répartis sur 12 jours de festival. Ça a commencé il n'y a pas très longtemps. Donc,
ça a commencé le 12 novembre, oui, effectivement.
Oui, ça termine le 23, je crois.
C'est ça.
Oui, donc voilà, voici les suggestions d'entrée du chaîne de la presse le 10 novembre. Stray Dog de Deborah Granik. La cinéaste américaine Deborah Granik avait beaucoup fait parler d'elle en 2010 avec son film Witherspoon, couronné du Grand Prix du jury à Sundance. Elle nous revient avec un documentaire consacré à Ron Stray Dog Hall, qui avait un rôle mineur dans ce film. Cette fois, tout le film porte sur ce motard singulier, vétéran du Vietnam et vivant dans une caravane. Quel beau personnage! En première canadienne, le film est présenté dans la section Panorama. Ce film est donc... La deuxième représentation aura lieu le 22 novembre au Cinéma du Parc à 21h15. Actresses de Robert Greneux. En compétition internationale des longs métrages, Actresses nous met en présence de Brani Brewer, connue dans son rôle de Teresa D'Agostino dans la série The Wire. Or, l'actrice américaine a mis fin à sa carrière pour se consacrer à une vie familiale qu'elle a voulu exemplaire. Cette vie rangée ne pouvait résister longtemps à un désir d'accomplissement plus grand, comme nous le fait voir ce film dans lequel Brandy Buer joue le rôle de sa vie, le sien. C'est présenté au Cinéma du Parc le 20 novembre à 20h et également à l'Amphithéâtre du Cœur des sciences de l'UQAM le 22 novembre à 13h30. Sol de Marie-Hélène de Coustineau et Susanna Avingac. Après son film de fiction Uvanga, Marie-Hélène Cousineau revient avec un documentaire tourné dans le Grand Nord canadien. Avec sa co-réalisatrice Susanna Avingac, elle nous fait rencontrer Salomon Tapitsiak Ouyaksouk, Sol, un jeune Innu acrobate, musicien et poète dont la trajectoire torturée a fait écho à celle de son peuple. Le film enquête sur sa mort suspecte dans la cellule de la GRC en compétition nationale des longs métrages. C'est présenté au cinéma Excentrice le 18 novembre à 18h30 et à l'Université Concordia au pavillon JA de Sèvres le 21 novembre à 19h. La quatrième suggestion, Approaching the Elephant, d'Amanda Rose Windler. La section contre-courant des rendez-vous internationaux des documentaires de Montréal se veut un lieu de rencontre d'œuvres défiant nos perceptions culturelles. On y retrouve ce long métrage américain qui, en noir et blanc, fait la chronique de la première année d'une école qui se réclame de la philosophie de Summerhill, célèbre anglaise connue pour ses principes d'égalité et de liberté. Bilan, il faut plus de bonnes intentions pour assouvir ses propres utopies. Ce film est présenté le 21 novembre à 18h15 à l'amphithéâtre des sciences du cœur des sciences de l'UQAM et au même endroit le lendemain à 18h. Finalement, Jutra de Marie-Josée Saint-Pierre. En conférence de presse, la direction de la programmation des rendez-vous internationaux des documentaires de Montréal, Charlotte Selbe, rappelait la place importante qu'occupent les moyens et courts-métrages documentaires. Des quelques dizaines de titres inscrits à l'édition 2014, on y trouve plusieurs œuvres québécoises. C'est le cas de Jutra, qui, à l'aide d'archives visuelles de techniques d'animation, nous offre une biographie filmée du grand cinéaste disparu trop tôt. Ce film est à l'affiche au cinéma Excentrice le 15 novembre à 16h15 et le 20 novembre à 17h45 au cinéma du Parc. Je le répète, ces rendez-vous du documentaire sont là jusqu'au 23 novembre.
Donc, nous allons parler du tout premier spectacle de Valérie Blé, qui est passé sur la scène du Monumental National le 11 et le 12 novembre. Donc, je vais vous lire un article qui est paru dans le Métro hier, le 13 novembre, écrit par Jessica et Monferrat.
Valérie Blé qui a fait le saut en humour, hein, c'était une actrice.
Effectivement.
C'est toujours une actrice, bien
ça
sûr.
Ça l'est toujours, mais elle passe de l'autre côté. Valérie Blé a fait beau rire hier, Valérie Blé avait beau faire hier ses premiers pas sur scène à titre d'humoriste, on aurait cru qu'elle avait fait cela toute sa vie. Elle nous a fait mourir de rire en se jouant d'elle-même dans la télésérie « Tout sur moi », mais le passage sur scène allait-il être aisé ? La réponse, on l'a eue au Monumental National, oui, la comédienne Valérie Blé est aussi une excellente humoriste. Sa taille forte, sa maternité tardive, sa hantise d'être cheap, son manque de grâce, autant de sujets qui ne réinventent pas la roue, bien entendu, mais que l'actrice aborde avec un naturel désarmant, livrant avec aplomb ses gags punchés qui ne sentent pas la recette prémâchée. Se moquant allègrement de ses travers, « Je n'ai pas de grâce, mais j'ai beaucoup d'autres qualités féminines, comme faire des compliments et penser le contraire », elle n'épargne pas non plus ceux des autres, comme ce délicieux sketch où elle compare les bébés boomers aux générations X et Y, terminant le tout avec un des pétages de coche dont elle a le secret au grand plaisir du public. Mais, et c'est là une des forces du spectacle, la comédienne n'abuse pas de ce ton et sait qu'elle y va d'une vacherie bien placée ou parcimonie mot d'église. Sans tomber dans la vulgarité, elle consacre d'ailleurs un numéro au fait qu'elle déteste parler de sexe. Bref, le charisme de Blé, sa livraison impeccable et son humour désarmant en font une humoriste de la relève à suivre. Valérie Blé sera en supplémentaire le 24 janvier au Monument National.
À suivre.
Ta couleur café, tes cheveux café, ta gorge café, j'aime quand pour moi tu danses, alors j'entends murmurer, tout bracelet, joli bracelet, à tes pieds ils se balancent. Couleur café, que j'aime ta couleur café, couleur café, que j'aime ta couleur café. J'ai quand même fou l'effet
le fait que ça fait de te voir rouler ainsi des yeux et des bouches. Si tu fais comme le café, rien qu'à m'énerver, rien qu'à m'exciter. Ce soir la nuit sera blanche et couleur café. J'aime ta couleur café. Comme le café, très vite passé. Mais que veux-tu que j'y fasse? Mon main de café, et c'est terminé. Pour tout oublier, on attend que ça se tasse. Couleur café, que j'aime ta couleur café.
Ah, quelle sympathique basse. On vient d'entendre Lulu Gainsbourg de Couleur... C'était Couleur Café, oui, de Lulu Gainsbourg.
C'est ça.
Jennifer, c'est ta deuxième émission ici.
Oui.
Comment tu trouves ton expérience à date? Ça va bien?
Ah, bah, écoutez, c'est une très belle expérience. C'est pour ça que je suis revenue.
Oui.
Parce que j'adore être ici et je passe vraiment un agréable moment avec vous tous, d'ailleurs.
Mais c'est partagé, j'en suis sûre, avec les auditeurs. Je vais vous parler maintenant d'une pièce de théâtre entièrement féminine. Dans le fond, je ne vous en dis pas plus. L'article parle de lui-même. C'est écrit par Philippe Couture. C'est paru dans Le Voir. C'est paru le 6 novembre dernier. Femme d'aujourd'hui. Il y a en ce moment une conjoncture favorable pour la prise de parole féminine dans l'espace public. Présent les comédiennes Lise Roy les comédiennes Lise Roy et Marquita Bois qui se lancent dans la mêlée en compagnie de 7 auteurs et 6 actrices désireuses de fonder la féminité contemporaine dans le spectacle « Je ne suis jamais en retard ». Elles ont près de 60 ans et elles ont connu le militantisme féminin des années 70, puis l'élargissement des nouvelles vagues des années 90 et 2000 qui les incite aujourd'hui à réinterroger leur propre perspective sur la question. Lise Roy et Marquita Bois sont des femmes rayonnantes qui ont tenu de grands rôles féminins sur toutes les scènes montréalaises. Des artistes comblés de leur propre aveu, mais qui sont aujourd'hui conscientes des difficultés dans lesquelles doivent composer leur Benjamin. Elles qui ne ressentent pas la nécessité de se demander à nouveau de quel bois se chauffe la femme québécoise et dans quel monde la féminité se répercute ou se laisse ignorer. Ensemble, elles ont orchestré récemment à la Grande Bibliothèque une lecture publique de la pièce « La nef des sorcières », œuvre collective dirigée par Luce Guilbeault en 1976. C'est le succès de cette lecture et les échanges qui en sont nés qui leur a donné l'impulsion de créer un nouveau spectacle qui en reprend la structure, mais en renouvelle le contenu. De la pièce originale subsiste le principe du monologue porté par une actrice incarnant un personnage fort. Elles ont sollicité des auteurs, des conceptrices, des actrices de différents milieux et de différentes générations. Et la sauce prend, si l'on en croit leur enthousiasme. Ce n'est pas du conte urbain, précise Marquita Bois. C'est vraiment un personnage qui prend parole, qui exprime sa posture, ses idées, son regard. Je sens que nous sommes dans un moment privilégié pour ce type de parole, lance Lise Roy. Peut-être est-ce à cause de l'émergence d'une nouvelle génération de jeunes femmes qui ressentent un appel similaire à celui que nous avons connu dans les années 70, mais dont les contours sont différents, moins radicalement militants et peut-être davantage dans la réflexion et la mise en perspective, ce qui est sans doute mieux. Dès le début du projet, Nicole Brossard, qui participe au spectacle, a exprimé l'urgence de faire ce spectacle maintenant, présentant qu'il y a un temps historique propice, un moment de prise de parole qui n'existait pas il y a 5 ans. Les femmes ont fini par en avoir marre de se dire que l'égalité était acquise alors qu'elles constatent que tous les jours c'est faux, et elles le disent. À travers des personnages de femmes de ménage, d'ex-religieuses ou de hautes fonctionnaires enragées devant l'impuissance de la politique, le concert des voix en fera entendre dans un souci de représenter une parole intergénérationnelle. Le mot de Marilyn Perrault, 30 ans, ou celui de Nicole Lasselle, 40 ans de plus, résonneront à l'unisson. Mais comment concilier toutes ces paroles? Le féminisme contemporain est fragmenté. Féminisme radical, féminisme queer, il est parfois difficile de s'y retrouver. On n'a pas vraiment voulu essayer de faire un chemin dans toutes ces perspectives-là. Car on n'était pas des théoriciennes, on n'est pas dans l'art de définir, on est dans l'art de ressentir, dans le viscéral, dans la ludicité naturelle et épidermique. Chacune nomme ses propres mots. Parler au nom du féminin, c'était notre seule intention, de dire Marquita Bois. Le théâtre est aussi patriarcal et je trouve que notre création en ce sens est une rareté qu'il faut souligner. On s'en va faire une petite pause et on vous revient après l'émission. Après la pause, bien sûr, oui. En seconde partie, il sera question d'un opéra, d'un sujet de danse. Et toi, tu vas nous parler de...
De Stéphane Rousseau.
Ah, oui, OK. On retourne en humour. Très bien. Alors, à tout de suite.
Vous écoutez Kiosque Magazine.
Oui, Charles, avant que la pause n'intervienne, tu nous parlais de la pièce de théâtre Je ne suis jamais en retard. Est-ce que tu peux nous dire juste les dates?
Oui, c'est ça, j'ai oublié de vous le dire. C'est du 4 au 29 novembre.
Super.
Au Centre du théâtre d'aujourd'hui. Okay. Je vais enchaîner avec un opéra cette fois-ci. Un opéra bouffe. Et ça, je ne le savais pas, mais l'opéra bouffe, ça ne veut pas dire qu'il y a un buffet à la fin du spectacle ou à l'entracte.
Ça aurait pu être une bonne idée,
non,
mais...
Non, ça vient de bouffon, de bouffa, en fait,
okay.
Qui veut dire bouffon. Vous comprendrez, c'est un texte écrit par Christophe House dans Le Devoir, un barbier bien rythmé. Après un sinistre Nabucco, l'Opéra de Montréal nous présente avec Le Barbier de Séville un spectacle réussi, rythmé et coloré. Le titre original de l'opéra le plus connu de Rossini est « Alma Viva » ou « L'inutile précaution ». La conquête du cœur de la pupille de Rosanna par le comte Alma Viva est le sujet de l'opéra. Figaro, le barbier, n'est qu'un factotum de ce scénario. Puisque l'on parle d'équipe, il faut commencer par le chef d'orchestre, Christophe Campestrini, qui a livré la lecture orchestrale la plus intéressante dans la fosse depuis Jean-Marie Zentouni dans Cendrillon et Yannick Nézet-Séguin dans Salomé, avec un sens de la lisibilité, les bois, de l'articulation dans les cordes et une clarification des ensembles vocaux tout à fait exceptionnelle au regard du temps de préparation d'un opéra dans une maison nord-américaine. Dans ce barbier, il est difficile de dissocier le commentaire musical de la discussion du spectacle tant que ce que l'on entend pourrait être influencé par ce que l'on voit. Ce que l'on voit en premier, c'est l'agitation clownesque, irrésistible du personnage de Figaro Dupuis en meneur de revue, assisté par quatre pitounes surgies de l'imagination du metteur en scène. Quand je dis Figaro Dupuis, c'est que j'ai coupé au montage, là, mais c'est Étienne Dupuis qui tient le rôle-titre de ce spectacle. Le spectacle d'Auriol Thomas, le metteur en scène, se souvient que Le Barbier est un opéra bouffa, c'est-à-dire un opéra drôle. La mission qui s'est assignée est donc de faire rire le plus souvent possible, quitte à pousser un peu le bouchon. Pour faire mousser le vice comica, Auriol Thomas s'appuie donc sur Dupuis, dont l'abattage scénique est indéniable. Bogdan Milan en Alma Viva est la grande révélation de la soirée. Un bel acteur, une voix quasi idéale pour le rôle, un rien petit pour le Wilfrid Pelletier, mais on gagne en finesse et en articulation ce qu'on perd en volume. C'est cette précision que l'on retient des plus grands protagonistes de ce spectacle, dans un décor astucieux et inaltérable, qui est à l'Opéra de Montréal ce que Casse-Noisette est au Grand Ballet. Il est habillé en 2014 par des costumes truculents et éclairé de façon cartoon dans un beau spectacle rondement mené. Donc, ce spectacle est encore à l'affiche le 15 et 17 novembre 2014. Oui, donc c'est à la salle Wilfrid Pelletier. Désolé, j'ai été coupé, c'est brave. Maintenant, à Québec, je vous parle du spectacle L'Éveil qui sera dans le cadre du Festival de théâtre Jeunesse Coup de théâtre. C'est un texte d'Isabelle Hould dans Le Soleil, mis à jour, publié, oui, le 13 novembre, dans Un automne chaud pour Harold Réaume. À peine revenu du Mexique où il travaille sur un spectacle du Cirque du Soleil, Harold Réaume se jette cette semaine dans les derniers ajustements de L'Éveil, un nouveau spectacle de danse-théâtre en coproduction avec Les Enfants Terribles, qui fera l'ouverture du Festival de théâtre Jeunesse Coup de théâtre à Montréal. Je suis dans un genre de marathon, confirme le principal intéressé en entrevue depuis le Mexique la semaine dernière. Il y en a qui sont chanceux, hein, qui...
Effectivement.
Oui. Les spectateurs curieux de Québec pourront voir en primeur la nouvelle création d'Harold Réaume et de Marie-Josée Bastien en collaboration avec Steve Gagnon au texte et Elliot Laprise à la vidéo. Il y aura en effet une répétition publique de L'Éveil au Théâtre de l'Abordé, samedi demain, à 14h. Les places sont très limitées, comme la représentation se tiendra dans la salle de répétition. Vous pouvez réserver à info@commercialbordé.qc.ca. Ça nous permet de présenter devant un public avant de se jeter dans la gueule du loup, explique Réaume. Une ébauche du spectacle qui a d'ailleurs été présentée au dernier chantier du Carrefour international de théâtre. L'Éveil, inspiré librement de L'Éveil du printemps de Winterkind, propose une rencontre entre théâtre et danse où six interprètes, autant de comédiens que de danseurs, sont confrontés à l'éveil des différents phénomènes en eux. L'éveil de sens, l'éveil de la conscience, l'éveil bestial, du désir, du pouvoir, de la douceur. C'est important pour moi de trouver le côté hybride entre la danse et le théâtre et de permettre aux danseurs de parler et à l'acteur de bouger. Et de faire en sorte que le langage de la parole soit l'expression du corps, et l'un et l'autre cohabitent sans qu'on sente la scission, explique Harold Réaume. L'éveil est un spectacle pour adultes et adultes en devenir, image-t-il, à propos du créneau adolescent dans lequel il a été classé pour l'ouverture du Festival de théâtre jeunesse Coup de théâtre à Montréal, qui commence le 17 novembre. Donc, je le répète, si vous voulez assister à cette répétition publique très exclusive, ce sera samedi à 14h au Théâtre L'Abordé. info@commercialbordé.qc.ca. Hey.
dans l'été indien tu grouves. Un homme blanc et vers le temps s'éteint. Y'aura pas d'hiver avec toi. Méchant mélange d'anges, méchant mélange d'anges, remélange. Reste comme t'es, j'aime comme c'est, avec toi. Les nuits sont fauves, fille, or, ange étrange. Je me lance les yeux clos avec toi. Fille, kaléidoscope, triplibipsychotrope. Méchant mélange, méchant mélange d'anges, méchant mélange d'anges, remélange. Reste. J'aime comme c'est. Fille d'automne, pour déconner, à Chiquita Miniquois.
On vient d'entendre « Fille d'automne » de Yann Perrot. Une découverte pour toi, Jennifer?
Oui,
tu connaissais
tout
pas
à
Yann
fait,
Perrot?
Pas du tout. Non, alors je veux bien que tu me prêtes l'album, effectivement, parce que j'ai adoré.
Oui, mais peut-être que, qu'en France, vous ne connaissez pas Yann Perrot, mais vous connaissez sûrement Stéphane Rousseau, par contre.
Stéphane Rousseau, effectivement, on le connaît bien. Et justement, Stéphane Rousseau brise ses codes, c'est le titre de l'article qui a été écrit par Fabien Boileau dans le 24 heures, jeudi 13 novembre. À 6 jours de sa rentrée française officielle, Stéphane Rousseau termine les derniers préparatifs avant de fouler la scène historique du prestigieux Théâtre du Palais Royal avec son plus récent spectacle « Stéphane Rousseau brise la glace ». Partagé entre son goût pour l'adrénaline et la recherche de tranquillité, l'humoriste s'est confié sur sa vie entre ces deux continents. À 48 ans, Stéphane Rousseau fuit la linéarité. Après avoir sollicité son charme naturel et usé de son personnage de gendre idéal, l'humoriste a décidé de revenir avec un spectacle concept qu'il a passé 8 mois à écrire en France. Contrairement à mes autres spectacles, j'explore plus le côté stand-up américain, a-t-il expliqué. Mes amis me disaient que j'étais plus drôle dans la vie que sur scène. Je voulais toucher à ça, enlever mes béquilles. Ponctuée de phrases musicales, de chansons originales et de reprises, la nouvelle production de Stéphane Rousseau se veut une expérience électro-pop-rock humoristique. Une continuité de 100 minutes, sans entracte et avec musiciens. Partagé entre la paternité, la scène, le cinéma et la télévision, il anime sur invitation seulement, Stéphane Rousseau s'est entouré de talents pour peaufiner son nouveau spectacle. Mais aucun travail d'adaptation n'a été fait comme ce fut le cas pour ses deux propositions précédentes en France. Entre le Québec et la France, Stéphane Rousseau possède les clés humoristiques des deux continents. Il ne compte pas s'installer dans l'Hexagone pour pérenniser son image. J'ai un fils à Montréal, c'est inenvisageable de m'installer en France aujourd'hui. Je le ferai probablement pour mes vieux jours. J'aimerais avoir une maison en Provence et peindre. Voilà, donc Stéphane Rousseau nous fait part de son envie d'aller en France pour ses vieux jours, mais pour le moment, il restera au Québec.
Bon, tant mieux. Dans la vie, on se raconte souvent des histoires, parce que ça nous rassure, parce que la réalité est trop souvent implacable, parce que l'autorité que la science et les médias semblent imposer peut devenir lassante et tuer l'imagination. C'est plus amusant, par exemple, de croire à l'astrologie plutôt qu'à la sélection naturelle, aux anges plutôt qu'au vide, à la conspiration plutôt qu'à l'explication la plus simple. Catherine Bolduc, elle, a décidé de servir ses petits scénarios nés de sa caboche pour créer. La plupart du temps, ses œuvres sont de grand format, parce qu'ils permettent d'encore mieux aux visiteurs d'y plonger et de s'y perdre. Les enchevêtrements et foisonnements labyrinthiques qui caractérisent les dessins de son exposition, la matière sombre et les autres paysages hypnotiques, au Musée des Beaux-Arts de Sherbrooke sont justement d'excellents outils pour se couper un moment de la réalité. Ce sont les mots de Steve Bergeron dans La Tribune, « S'amuser à déformer la réalité », publié le 13 novembre. Ce n'est pas un jugement que je porte. Je constate simplement que nous, les humains, avons besoin de discours qui nous rassurent, que la mémoire se mêle parfois à la perception. Je m'intéresse à la façon dont cette subjectivité intervient dans notre vision du monde, résume l'artiste montréalaise, avant de donner comme exemple la réalisation de la pièce. Comment encadrer un paysage hypnotique, une intervention picturale in situ caractérisée surtout par l'immense gouffre noir qui semble s'ouvrir à même le mur. Un matin de septembre, alors que je lisais un article dans le journal au sujet de récentes découvertes en astrophysique, j'ai fait l'expérience d'une étrange sensation de vide sous mes pieds, comme si le sol s'ouvrait soudainement évaporé. L'article portait sur l'hypothétique matière sombre, une matière impalpable et invisible à l'œil nu qui composerait néanmoins 80% de l'univers. L'espace autour de moi était dorénavant envahi d'une matière mystérieuse qui échappait à mon regard. J'ai poursuivi ma lecture et peu à peu le vide sous mes pieds s'est tranquillement rempli. Puis cette sombre matière s'est mise à proliférer de matière exponentielle. Il m'a semblé que bientôt je n'arrivais plus à discerner le paysage environnant, j'avais perdu mes repères. Montréal, et nous l'avons perdu. Autre exemple, lorsqu'est survenue la disparition du vol de la Malaysia Airlines, Catherine Bolduc s'est rendue compte que la zone de recherche dans l'océan Indien était à l'antipode exact de Montréal. Pire, un débris flottant montré aux nouvelles avait même la forme de l'île de Montréal, mais inversé comme dans un miroir. Il n'en fallait pas plus Il n'en fallait pas plus pour que sa folle du logis s'emballe et s'imagine un lien entre les deux lieux. Vous voulez y aller? C'est Catherine Bolduc qui est exposée au musée des Beaux-Arts de Sherbrooke. Son exposition s'intitule « La matière sombre et autres paysages hypothétiques ». C'est jusqu'au 25 janvier 2015.
Que de bas, c'est la vie dans ce monde, triste réalité. Est-ce que ça va?
Et donc nous étions sur le rythme entraînant d'Amadou et Mariam qui nous interprétaient la réalité.
Oui, vraiment, c'est un bon anti-spleen automnal.
Effectivement.
justement, parlant de spleen automnal, une autre façon de le combattre, ce serait peut-être d'emprunter la route celtique. Est-ce que tu sais c'est quoi la route celtique?
Non, mais je suis pressée de t'entendre.
Oui, alors c'est Fabienne Couturier qui nous en parle dans la presse. C'est paru le 7 novembre. La route celtique, embrasser le passé. Ça se situe entre Plessisville et Thetford Mines. Et c'est une route de tout ce qu'il y a plus bucolique, là, la campagne, quoi.
D'accord.
Nous sommes dans les contreforts des Appalaches, plutôt collines que montagnes, dont le relief ondule mollement jusqu'au bout de l'horizon. Les fermes grasses et prospères y déploient en cascade leurs champs de soya, de blé ou de maïs, festonnés d'érablières ou de pinèdes. Ah, ça doit être les endroits où on sème le pin. Ça doit être ça. Je vais faire une recherche. Sur les hauteurs, les bataillons d'éoliennes, élégantes et muettes sentinelles, capturent un vent permanent qui décoiffe et aère les esprits moroses. Ici, c'est pas une route des vins. Il n'y a pas de zoo, il n'y a pas de parc aquatique. Il y a bien le musée de bronze d'Iverness ou le superbe site patrimonial de Saint-Jacques de Leeds qui regroupe une ravissante église et son vénérable presbytère, ainsi que deux écoles de rang, dont l'une toute meublée encore comme si les élèves venaient d'en sortir. Avec quelques beaux parcs ou marchés ou pique-niquer, notamment celui des chutes de Lysander à Iverness, c'est à peu près ça. Et comme à peu près tout ça est fermé dans l'action de grâce à la Saint-Jean, il faudra revenir en été pour en profiter. En attendant, il reste à te remplir les yeux de beauté, ce qui est déjà pas mal. Comme les cantons de l'Est, la région a été colonisée par des vagues successives d'immigrés venus d'Angleterre, des États-Unis, d'Irlande et d'Écosse. Si la plupart de ces familles, au fil du temps, ont été remplacées par des francophones, elles ont laissé leur marque dans tout le territoire. Les chemins Craig et Gosford, aménagés au début du 19e siècle pour relier Québec à Boston par diligence, sont le fil qui nous unit à leur histoire. On parcourt la route celtique à l'envers ou à l'endroit, dans l'ordre ou le désordre, en s'arrêtant à tout bout de champ, c'est le cas de le dire, pour dire bonjour à ces grands bœufs ou toupets frisés, pour tendre un peu d'herbe à un imposant cheval dont la crinière blonde luit au soleil, pour admirer ce long pont couvert qui enjambe la rivière Palmaire. L'Irlande au Québec. Entre Kinnesar Mills et Saint-Jean-de-Brébeuf, tout près d'une vertigineuse tour de télécommunication d'Hydro-Québec, un belvédère permet d'embrasser d'un coup tout le paysage. La route y grimpe joyeusement avant de redévaler les collines qui traînent d'une traite jusqu'à l'Irlande, où il faut absolument s'arrêter pour jeter un coup d'œil au lieu patrimonial Holy Trinity. Oh, rien d'extraordinaire! Encore une église blanche, un cimetière à flanc de coteau, un vieux presbytère. Pour peu, on envierait les morts d'avoir pour lieu un si joli, pour avoir pour repos un si joli lieu. Après, on pourra pousser jusqu'à Saint-Julien, deuxième village en altitude au Québec. Le plus haut, c'est Saint-Malo, près de Quaticook. Juste pour dire qu'on y est allé et redescendre ensuite vers Ham Nord, puis à Victoriaville, à travers les érablières, dont les dernières feuilles se consument dans le jour finissant. Alors, pour en savoir plus et épater vos yeux et vos oreilles, ça s'appelle la route celtique. Alors, on m'a informé que Pinède ou Pinerais, c'est bien une plantation de pin. Alors, mon intuition me...
Tu as vu juste.
Oui, exactement. l'émission s'achève. On va y aller de quelques brèves. Si tu permets, je vais commencer. À Québec, il y aura un défilé de Noël. Prep après, les activités de Noël sont commencées ce week-end. Plus de 100 000 visiteurs sont attendus au centre-ville de Québec pour la parade des jouets. Quelques 600 participants incarneront, dans 70 tableaux différents, la grande tournée du Père Noël sur les 5 continents. À voir chars allégoriques illuminés, fanfares, personnages costumés, troupes de danse. C'est l'occasion pour les enfants de remettre aux facteurs leurs lettres adressées au Père Noël, de donner un de leurs jouets usagés et de remplir leurs poches de surprises et de gâteries distribuées le long du parcours. Le départ est à 15h à l'angle de l'avenue Saint-Napoléon-Parent et de la rue Chenevet. À noter, le défilé a changé de parcours cette année, donc ne vous aventurez pas trop loin. Pour plus d'informations, pour ceux qui ont accès à Internet, c'est paradedesjouets.ca.
Super, je pense qu'il n'y aura pas que des enfants qui iront.
Oui.
Alors, pour ma part, je vais vous parler du film « Pas son genre » au cinéma, tiré du roman de l'écrivain français Philippe Villain. Le long métrage « Pas son genre » plonge dans l'histoire d'amour peu probable entre un professeur de philosophie de Paris et une coiffeuse de province. En effet, Clément se nourrit de son travail et des pensées de Kant ou de Bourdieu, tandis que Jennifer lit les magazines de stars, aime danser avec ses copines et ne connaît pas grand-chose de la philosophie. Est-ce vrai que les opposés s'attirent ? Bien, la réponse au cinéma, parce que ça sort en salle aujourd'hui, bon. 14 novembre.
Très bien. Si vous avez envie d'aller à un concert, mais vous n'avez pas toujours les moyens d'y aller, y a un concert gratuit à la Maison symphonique de Montréal. L'ambassade de la République de la Corée présente en l'honneur des anciens combattants canadiens de la Grande Guerre de Corée, qui s'est déroulée de 50 à 53, un concert gratuit. Le 1er décembre 2014 à 20h à la Maison symphonique de Montréal, la soprano coréenne Simu Jo et le baryton québécois Jean-François Lapointe seront accompagnés par Imusici de Montréal dans un programme d'air d'opéra célèbre. Les laissez-passer peuvent être réservés auprès du consulat général de la République de Corée à Montréal par téléphone au 514-845-2555, le poste 239 ou bien par courriel.
Au théâtre, la pièce Léo, provenant de la ville de Berlin, entreprend une tournée au Québec après avoir parcouru les théâtres des États-Unis, de la Pologne, de la Nouvelle-Zélande et même de l'Iran. On n'y voit qu'un seul interprète acrobate sur la scène qui évolue dans une petite pièce et filmé par une caméra à 90 degrés. Décrit comme du théâtre physique, les numéros explorent les lois de la gravité et jonglent avec l'illusion. Ça débute ce soir et demain à 20h. Ainsi que dimanche à 14h au Théâtre Outremont.
Et en terminant, à Laval, à compter de samedi, le Cosmodôme de Laval présente la Semaine de la Petite Ours. Pendant 5 jours, une foulée d'activités destinées aux 3 à 7 ans seront présentées. Lecture de contes, chasse au trésor, bricolage, animation scientifique et fabrication de fusées à air. L'entrée est gratuite pour les moins de 7 ans. Aucune réservation n'est nécessaire, sauf pour les groupes. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres.
Merci Charles, merci
Jessica,
à vous tous.
Merci Jessica Niri. Je remercie aussi à la régie Rémi Hermoso et Jean-Sébastien Laliberté. On se retrouve
vendredi prochain,
pour une autre édition de Kiosque Magazine. Sinon, vous pourrez toujours écouter une autre édition de Kiosque Magazine sur un autre thème dès lundi. On se retrouve bientôt. Bonne journée.
Au revoir à tous.
Au revoir.